Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Droits et Devoirs. Au cours de notre précédente livraison, nous avons parlé de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que la perception des lois inhérentes. Nous avons fait un survol historique pour évoquer les guerres de 1996 et 1998 en RD Congo comme une des causes des violences sexuelles. Ces guerres, en effet, n'ont pas que fait empirer la situation économique déjà déplorable, mais surtout provoquer des millions de victimes dont les plus exposés et visés sont cruellement frappés par les crimes de toutes catégories. Ce sont des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. Dans le magazine d'aujourd'hui, nous continuons à aborder ce sujet avec un accent particulier cette fois-ci sur la prise en charge multiforme des victimes et les éventuels moyens de prévention. Et nous sommes toujours à Goma, dans le Nord Kivu, où l'on dénombre plusieurs milliers de victimes. Vous les écouterez dans ce magazine qui porte sur le fonctionnement et l'apport des cliniques juridiques et de One Stop Center dans la lutte contre les violences sexuelles. Comment se fait la prise en charge des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre? Quelles sont les faiblesses et la force du programme Tupinge Ubakaji qui veut dire combattre le viol? Quel est l'apport du système clinique, juridique et One Stop Center contre ces fléaux? Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans ce processus? Des réponses à toutes ces questions dans votre magazine Droits et Devoirs, coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki, Jeff Ngoï est à la présentation. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous sur la fréquence de la paix. Nous avons rencontré des centaines de victimes de violences sexuelles dans le Nord Kivu, notamment à Goma et dans le camp de Mugunga. Ces victimes accusent d'anciens rebelles d'avoir été à la base de leur malheur. Témoignage.
Cha kwanza ni ubakaji kwa bamtika na bamama venu ko marier.
D'abord, plusieurs jeunes filles ainsi que les femmes mariées ont été violées. Deuxièmement, ces M23 nous faisaient transporter des colis qui sont très lourds à porter. On prenait 3 à 4 jeunes garçons qui transportaient des gros tickets d'armes. Beaucoup sont tombés malades. Après et aujourd'hui, ils sont incapables d'exercer une quelconque activité. Ce sont des gens qui imposaient leur dictature. Si tu refuses d'obéir, tu es torturé. Moi-même, j'ai souffert depuis ce temps de maux de dos. Nous souhaitons que la justice congolaise puisse poursuivre ces gens. D'abord, les ramener au pays pour qu'ils soient jugés et qu'ils payent pour toutes les exactions commises.
Tu pourras aller en justice et porter plainte?
Oui, parce qu'ils ont détruit ma vie. Qu'on les ramène au pays pour qu'ils soient jugés.
Je garde un mauvais souvenir. J'étais allé au champ chercher à manger. C'est dans la région de Kitiba. J'ai été violé sur place et j'y ai passé 7 jours. Je suis retourné chez moi, mais enceinte. J'ai accouché d'un enfant que je n'attendais pas. Quand je pense à ça, j'ai trop d'amertume. Autre chose, ils se sont rendus coupables de plusieurs violations des droits de l'homme. Ils ont violé, ils ont tué nos frères. Nous gardons un mauvais souvenir de rebelles du M23. Tout ce que je demande au gouvernement congolais, c'est d'être responsable. Le gouvernement sait que ces gens sont dans les pays voisins. Pourquoi ne pas le poursuivre et demander leur extradition pour qu'ils soient jugés et condamnés et qu'ils payent des amendes? L'argent pourra servir à indemniser les victimes ou carrément mettre cet argent dans le compte du territoire de Nyiragongo.
Vous êtes les bienvenus, vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes en train de suivre le magazine Droits et Devoirs. Nous parlons du fonctionnement et de l'apport des cliniques juridiques et du One Stop Center dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Après les différents témoignages des victimes que certains parmi vous ont suivis tout à l'heure, nous nous sommes rendus au poste de la police de protection de l'enfant à Goma, spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles. Ici, l'officier de police judiciaire, commissaire Gaston Itumpu, explique le travail des cliniques juridiques et du One Stop Center.
One Stop Center, c'est un système de prise en charge où on retrouve toutes les structures de prise en charge d'une victime de violence sexuelle. Notamment, il y a la clinique juridique qui prend en charge pour l'accompagnement juridique et judiciaire. Il y a l'hôpital où on retrouve le médecin qui soigne la victime de violence sexuelle et donne les rapports à la police. Il y a les psychologues qui aussi évaluent l'état de la victime pour en fait évaluer les préjudices causés et les conséquences ultérieures. Et il y a la réinsertion sociale qui se trouve toujours dans le même système de One Stop Center qui en fait prend un long moment pour accompagner la victime afin de les réinsérer dans la société. Et nous avons la police, nous du gouvernement, qui mène les enquêtes. Et ces enquêtes commencent par l'audition de la victime. Nous l'orientons à l'hôpital pour la prise en charge et nous recherchons activement l'auteur de violences sexuelles. Si l'auteur est un mineur, cet auteur sera orienté à son juge naturel, c'est au tribunal pour enfants. Si l'auteur c'est un adulte, nous les recherchons et nous les transférons au parquet de grande instance. Si il est adulte et en uniforme, soit policier, militaire ou groupe armé, celui-là aussi sera transformé à l'auditorat. Voilà comment, en symbiose, on essaie de travailler dans les systèmes de One Stop Center. Quand on reçoit la victime, on commence par lui montrer la structure. Nous disons, nous sommes la police. Nous lui expliquons ses droits, notamment. Il a droit à être assisté par un avocat. Il a droit de comparaître dans la langue de son choix. Il a droit au respect de son intégrité physique et respect de sa vie privée. Il a droit de porter plainte. Il a droit aussi aux soins médicaux. Donc, il y a toute une liste reconnue par le protocole international de la lutte contre les violences sexuelles pour qu'on explique à la victime avant son audition. Et je crois bien, les avocats aussi, parce que la victime ne passe pas nécessairement à la police, la victime peut passer aussi à l'avocat ou auprès d'une clinique. Et là, on a le temps de lui expliquer tous ses droits. D'une manière schématique, je commence ici par la saisine. Si la victime est mineure, son audition doit être faite en présence de son parent ou une personne de confiance et aussi un avocat. Donc voilà trois personnes qui doivent assister à l'audition d'une victime mineure. Ici, pour une victime majeure, c'est deux personnes. Donc la victime elle-même et son avocat. Ici, les parents ne doivent pas assister, même pas son mari ou son épouse si c'est un homme ou une femme. Au niveau de la police, nous procédons à leur audition. Après l'audition, nous faisons appel à une clinique juridique pour venir assister si la victime n'a pas un avocat. Et nous orientons la victime à l'hôpital. Ça, c'est au niveau juste de la saisine après l'audition.
Restons toujours à la police de protection de l'enfant où l'OPJ parle cette fois-ci du rôle de la police dans le système de One Stop Center.
Notre place, c'est la prise en charge judiciaire des victimes de violences sexuelles. Et dans ce cadre, nous collaborons directement avec la clinique juridique qui accompagne la victime dans la prise en charge judiciaire et juridique. Et qu'est-ce que nous faisons? Une victime qui nous arrive, après son identification, nous procédons à son audition et l'audition doit être faite en présence d'un avocat. Et l'avocat provient d'une clinique juridique. Après cela, nous orientons la victime à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Donc, vous voyez que nous intervenons à deux niveaux par rapport à d'autres structures de prise en charge. La clinique juridique va disponibiliser un avocat pour la procédure qui va suivre afin de procéder à l'arrestation de l'auteur. Nous recherchons activement l'auteur de violences sexuelles. Et une fois l'auteur retrouvé, nous l'orientons à la juridiction compétente. Bon, clinique juridique, c'est un cabinet des avocats.
Où l'on apprend aux gens leurs droits et devoirs.
Voilà, là, c'est là où on apprend. Oui. Les avocats essaient d'informer la victime ses droits à premier niveau, lui montrer l'importance de sa présence lors de la procédure, l'aider à comprendre certaines notions du droit et à la procédure. On suppose la victime vraiment ne comprend pas ou ne connaît pas tous les rouages de la procédure pénale.
Oui. Comment fait-on pour faire éviter à la victime la stigmatisation?
Nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures que les partenaires et le gouvernement congolais se sont investis pour construire un beau bâtiment. Et là, il y a des salles d'écoute appropriées pour l'audition des victimes. Et la disposition de nos salles d'écoute vraiment confère un caractère de discrétion. Donc, quand on commence l'audition, personne ne peut entrer.
Là, on entre dans le droit de la confidentialité.
Confidentialité, oui.
La réinsertion sociale, c'est la voie de sortie.
La voie de sortie.
Oui.
Mais la voie d'entrée, ça peut être l'hôpital.
L'hôpital.
Ça peut être la police ou la clinique juridique. C'est le PNUD qui appuie. C'est One Stop Center parce que, comme je vous ai dit, le PNUD appuie pour la police en fourniture, en carburant pour mener nos enquêtes et puis en formation. Vous devez savoir que l'OPJ travaille dans le cadre judiciaire sous la direction de l'officier du ministère public.
L'officier du ministère public, le parquet.
Le parquet, oui. Voilà. Nous avons la tâche de rechercher les infractions.
Vous êtes l'œil et l'oreille du parquet.
Ah, voilà, l'œil et l'oreille du parquet, vous connaissez d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est un engagement du gouvernement congolais, mettre fin aux actes de violence sexuelle.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Vous écoutez Radio Okapi, le magazine Droits et Devoirs s'intéresse à la prise en charge multiforme des victimes et aux éventuels moyens de prévention. Après la police, les victimes de viol bénéficient de la prise en charge psychologique auprès d'un psychologue clinicien de l'hôpital de Keshiro. Et ici, c'est Franklin Kalembo qui les accueille.
La survivante doit bénéficier le paquet psychosocial et santé mentale. On doit réunir les éléments de preuve psycholégale en partant du récit de la survivante, comment l'incident traumatique est survenu. Et c'est à partir de là que je vais constater les aspects beaucoup plus psychologiques qui sont touchés. Et là, je dois regarder l'aspect cognitif.
C'est-à-dire,
je vais regarder est-ce que la personne-là se concentre encore à ses activités.
Ce n'est pas le médecin légiste qui doit réunir toutes ces preuves.
La loi qui autorise ce travail pour un psychologue et clinicien, c'est la loi numéro 06-019 du 20 juillet 2006, modifia et compléta les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais à l'article 14 bis qui stipule que l'officier du ministère public ou les juges requièrent d'office un médecin et un psychologue afin d'apprécier l'état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d'évaluer l'importance du préjudice subi par celui-ci et son aggravation ultérieure.
Est-ce que ça se fait actuellement?
Avec le système One Stop Center, ça ne se faisait pas encore. Et aussi, ça ne se fait même pas. Raison pour laquelle nous sommes entrés des montrer l'importance des éléments de preuve psycholégale.
Vous montrez ou bien vous plaidez pour que ça se fasse?
Quand je montre, c'est-à-dire je suis en train de faire aussi le plaidoyer.
Pour ne pas faire les choses à moitié, nous avons également tendu notre micro à une autre psychologue clinicienne. Elle revient ici sur le référencement de cet accompagnement psychologique des victimes.
Quand on va faire la référence chez médical, on prend la fiche de référencement plus la fiche générale. On fait l'accompagnement des malades chez le médical avec ces deux fiches. Après, le médical va aussi faire les contre-références chez psychosocial. Le psychosocial prend encore la fiche de référencement contre la juridique et la fiche de générale. Elle aussi, là-bas, au juridique, fait aussi les contre-références chez psychosocial encore. Et psychosocial, quand elle va terminer avec les séances, comme mon collègue vient de parler là-bas, on prend alors les fiches de référence et les fiches générales pour les sortir. Alors, c'est la réinsertion socio-économique.
En quoi consiste la procédure de prise en charge médicale dans le système de One Stop Center à Keshiro? Nous avons posé cette question au médecin directeur du centre médical Jason. Docteur Foura nous donne des précisions.
Les circuits que nous faisons habituellement, quand une victime de violence sexuelle se présente, on l'amène directement chez les psychosociales. Ambre va traiter avec elle et fait déjà une fiche d'information générale. Et c'est avec cette fiche qu'on va me l'amener. Je vais l'examiner. Après les examens et tout, je l'amène encore chez l'APES. Et après, l'APES va l'amener assistant psychosocial. Et de là, elle va l'amener au juridique. Et au juridique, elle va encore revenir chez l'APES. Et encore chez de l'APES, elle va aller à la réinsertion socio-économique.
Maintenant, quelle est la particularité de One Stop Center et clinique et juridique?
La particularité de One Stop Center, la première des choses est que le même jour où on a la victime qui nous arrive, on a la chance qu'elle puisse partir. Elle va entrer dans tous les services. Ça, c'est déjà un atout pour nous. Nous l'appelons One Stop Center parce qu'il y a tous les services au même endroit. Et tout ça, c'est gratuit. Elle ne paye pas.
Mmh.
Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Votre magazine Droits et Devoirs se poursuit. Nous parlons du fonctionnement des cliniques juridiques et de l'apport du One Stop Center dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Cette émission est produite depuis la ville de Goma. Depuis 2007, plus de 5000 femmes, hommes et enfants ont été pris en charge sur le plan médical, psychosocial et juridique à l'hôpital de Kishiro. En 2016, l'hôpital commence l'expérimentation du One Stop Center, dont le médecin directeur Guilhem Vouama explique les avantages et les défis à ses hôtes.
Parmi ces avantages, nous notons d'abord le renforcement de la confidentialité. Et cela aussi permet aux victimes d'avoir accès dans les différents services, ici même au niveau de l'hôpital, dans un même endroit, et cela a diminué sensiblement les taux de risque de déperdition des cas, et nous avons noté aussi la cohérence dans les données que nous vous présentons. Il y a des défis qui restent à surmonter, parmi lesquels nous disons l'opérationnalisation et la pérennisation de One Stop Center, et c'est là il faut penser aussi à la prise en charge des ressources humaines qui interviennent dans ce travail. Et l'autre, c'est l'intégration aussi de la police judiciaire au niveau de l'hôpital, et aussi la formation aux compétences à faire sur le développement des activités génératrices des recettes.
Quel est alors l'apport du gouvernement congolais dans cette lutte engagée? Un représentant du ministère de la Santé s'est confié à nous à l'hôpital.
Avec le ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités.
Comment arrivez-vous, par exemple, à déterminer qu'il y a eu autant de victimes de violences sexuelles, que le taux a baissé ou le taux a augmenté?
Ça dépend des cas que nous avions reçus au courant du mois. Par exemple, ce mois de juin, nous avions eu 32 cas ici à l'hôpital. Pour les cas prise en charge médicale, prise en charge psychosociale.
Par rapport au mois passé, le taux a augmenté ou a baissé?
Le taux a augmenté un peu, parce qu'au mois de mai, c'était aux alentours de 28.
S'il faut faire le bilan aujourd'hui, pour cette année 2017, depuis que vous êtes ici, le taux de violence sexuelle représente quel pourcentage?
Bon, jusqu'à présent, le taux est toujours élevé parce que l'insécurité est toujours grandissante dans les milieux ruraux. Parce que la grande partie des malades qui nous arrivent, elles viennent des milieux ruraux suite à l'insécurité. C'est-à-dire, une fois on résout le problème de la sécurité, peut-être ça peut baisser.
Les violences sexuelles sont aussi dénoncées dans les milieux universitaires. Et pour vous en rendre compte, nous avons été à l'université de Goma, Unigom. Le chef des travaux, Richard Matsipa, évoque le harcèlement sexuel et la stratégie du combat.
La violence la plus fréquente, c'est le harcèlement sexuel qui se manifeste à trois niveaux. D'abord entre enseignants, enseignants vers étudiantes, étudiantes vers enseignants et étudiants vers étudiantes. Là, c'est la première réalité. Et lorsque nous analysons un peu les causes, on sent que le plus souvent, c'est la pauvreté. Les étudiants actuels ne veulent pas échouer et c'est comme ça que certaines étudiantes préfèrent aller vers les enseignants pour pouvoir réussir facilement ou à travers ce qu'on appelle communément le point sexuellement transmissible. Mais aussi des enseignants, lorsqu'ils trouvent qu'une étudiante est faible, ils en profitent pour pouvoir poser des problèmes liés au sexe.
On peut dire que parmi les auteurs de ces harcèlements, vous en faites aussi partie puisque vous êtes enseignant.
De manière indirecte, oui, je peux dire ça parce que lorsqu'un collègue fait ça, je dirais que moi-même je suis impliqué en tant qu'enseignant.
Maintenant, quels sont les défis à relever dans le milieu universitaire en ce qui concerne les violences sexuelles?
Je vais d'abord commencer par remercier le gouvernement canadien qui a financé un programme appelé Tupingi Obakaji. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec l'UNESCO pour essayer un peu de sensibiliser les étudiants dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre. On n'a pas seulement sensibilisé les étudiants, mais aussi les enseignants. Et les défis que nous avons rencontrés, c'est que le programme a élaboré une stratégie. Mais la stratégie n'est pas tellement vulgarisée. Alors que si on l'a vulgarisée, elle permettrait à ce que tout le monde soit informé sur la manière dont on peut arriver à changer les comportements des différentes couches de la population pour qu'en enfin, nous puissions réduire les violences sexuelles basées sur le genre.
Et comment s'est fait cette sensibilisation en milieu universitaire?
Alors, la sensibilisation, elle s'est faite d'abord dans le cadre de la formation des enseignants sur les violences sexuelles basées sur le genre.
Avec l'appui du gouvernement canadien.
Oui, oui, avec l'appui du gouvernement canadien, oui, du PNUD et de l'UNESCO. On a aussi formé les étudiants là-dessus, mais aussi, cela a permis à ce qu'on ait des points focaux dans toutes les couches qui sont là pour sensibiliser les autres pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Mais aussi, dans le cadre de cette sensibilisation, il y a un cours de genre, société et développement qui est enseigné dans les universités.
Oh oui. C'est un nouveau cours.
C'est un nouveau cours qui a été élaboré par les enseignants de l'UNIGOM, de l'ICB et de l'UNIKIN, oui, et qui est déjà intégré dans certaines institutions ici à Goma. Et le plus grand défi, c'est l'intégration de ce cours-là au niveau national.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Nous rappelons à tous ceux qui nous prennent en cours que nous recevons Richard Matsipa, chef de travaux à l'université de Goma, avec qui nous parlons de la problématique des violences sexuelles dans les milieux universitaires, plus particulièrement à l'université de Goma, et comment s'applique le programme Tupinge Ubakaji dans ces milieux universitaires où il est enseignant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ces cas de harcèlement qui sont observés dans les milieux universitaires?
D'abord, c'est que le comité de gestion, qui est directement responsable des activités, applique la loi à la matière si vraiment les faits sont avérés. Parce que
comment la loi est appliquée, par exemple?
La loi, c'est que on interdit les points sexuellement transmissibles.
Comment est-ce qu'on peut contrôler ça? Parce que le prof, c'est lui qui garde les copies, il a le secret de toutes les réussites et d'échecs, il est le maître de son cours.
Effectivement, à l'INIGOM, par exemple, le comité de gestion a déjà trouvé une solution pour cette année, c'est l'anonymat. Maintenant, on corrige les copies sans avoir une idée sur le nom ni qui que ce soit. Les étudiants sont identifiés par un code et l'enseignant ne sait plus à qui il a affaire lorsqu'il est en train de corriger ses copies. Ça, c'est un aspect.
Portez pas ces cas-là devant les cours et tribunaux, devant le ministère public?
Non, nous avons un ministère de tutelle qui gère toutes ces questions-là. Et c'est comme ça que lorsqu'il y a des situations pareilles, le ministère ou le comité de gestion, après avoir instruit le dossier, il met la personne à la disposition du ministère de tutelle.
Et quelles sont les faiblesses et les points forts que vous décelez du programme Tupinge Ubakaji?
Le point fort, c'est qu'ils ont quand même arrivé à élaborer un document de base qui peut aider tout le monde à travailler sur la question des violences sexuelles basées sur les genres. Là, vraiment, c'est un point fort. Et la faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas mis assez de moyens pour pouvoir atteindre toutes les couches qui sont des vecteurs de changement dans la société. Alors, moi, je peux souhaiter, c'est que si les moyens peuvent être trouvés, qu'on les affecte dans ces programmes-là pour connaître un peu ce qui anime ces programmes, à pouvoir toucher toutes les couches qui sont des vecteurs de changement dans la société. Là, je vois les familles, les parents qui sont responsables des enfants. Je vois les enseignants qui ne se considèrent pas seulement comme des transmetteurs de la science, mais aussi des responsables du changement dans toute la société.
Revenons à l'hôpital de Kieshiro. Nous abordons à présent l'aspect relatif à l'administration de la preuve en matière de violences sexuelles. Il y a des viols commis depuis 2 ans ou plus. Dans ce cas, comment le médecin dote le magistrat des éléments de preuve médico-légale dont il a besoin afin d'administrer la preuve du viol sur le plan judiciaire? Une fois de plus, on écoute le médecin directeur de cet hôpital, Guilhem Vouama.
Il y a d'abord celle-là qui nous arrive dans les 72 heures. C'est ce que nous voulons plus parce qu'en ce moment, il y a encore des possibilités, des traces possibles pour avoir quand même assez des éléments et nous avons des marges de manœuvre pour la prévention de certaines pathologies et la prise en charge adéquate. La deuxième catégorie sont celles-là qui nous arrivent déjà au-delà des 72 heures. Et pour celles-là, souvent, ce sont les conséquences que nous prenons en charge. Les délais de prévention est déjà dépassé. Les preuves matérielles, très souvent, on n'en a plus. Donc, on se base souvent sur l'histoire de la chose et on voit les lésions qui ont été causées et on les prend en charge. Il y a des lésions physiques qu'on peut avoir, des gratinures, des blessures. Et il y a eu des cas beaucoup plus extrêmes pour les enfants, par exemple, les jeunes filles, on les voit parfois déverger à cette occasion-là.
Le magazine Droits et Devoirs de Radio Okapi depuis Goma se penche sur le fonctionnement des cliniques juridiques et l'apport du One Stop Center dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Quelle est la particularité du One Stop Center et comment assurer le suivi de l'application du programme Tupinge Ubakaji, initié avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement? Madame Priya, directrice pays du PNUD.
Donc vraiment, c'est une des choses innovatrices en termes de ce programme et c'est vraiment à travers l'évolution du programme que nous avons mis en place le One Stop Center. Et comme je l'ai dit, à ces centres, les femmes, les filles qui ont été victimes peuvent trouver tous les services, que ce soit médical, scolaire, socio-économique. Donc ça les évite de se déplacer, ça permet un meilleur suivi, une meilleure traçabilité des victimes et vraiment un soutien plus intégré et plus holistique. Et vraiment, nous, notre ambition, notre vision, c'est de voir que ces One Stop Center soient mis à échelle, soient nationalisés ici en RDC. C'est vraiment là où on va essayer de focaliser nos efforts.
$90 sont donnés aux victimes des violences sexuelles comme fonds de démarrage pour leur réinsertion socio-économique. Une des femmes a fait un témoignage selon lequel elle a réussi à s'installer, à commencer une affaire commerciale qui a produit des résultats, mais elle trouve que c'est peu. Et si quelqu'un a bien géré le fonds que vous lui avez donné, comptez-vous le récompenser?
Mais tout d'abord, je pense que c'est déjà un exemple très, très parlant que cette femme qui a commencé avec $90 a pu fructifier cela. Je pense qu'on va tenir bien sûr ce feedback dans le cadre du deuxième programme, de voir s'il y a des possibilités de soutenir davantage. Mais bien sûr, comme vous le savez, il faut toujours trouver la bonne balance, encadrer les nouvelles victimes que l'on doit soutenir dès le début et puis voir comment continuer l'appui aux femmes et aux filles. Mais on va voir comment gérer cette balance dans le cadre du nouveau programme.
Le Canada soutient ce projet de prise en charge multiforme des victimes de violences sexuelles et basée sur le genre. La ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Mme Marie-Claude Bibeau, évoque des résultats escomptés enregistrés jusque-là tout en rassurant ses partenaires.
Ça confirme que la décision qu'on vient de prendre au Canada d'avoir une politique d'aide internationale qui est féministe, qui met les femmes et les filles au cœur de sa politique, ça confirme l'importance et ça confirme que c'était la bonne décision à prendre. Parce que quand on voit à quel point de jeunes filles, de jeunes garçons aussi, des femmes sont victimes de violences innommables, à quel point ces personnes ont besoin d'aide. Et le centre qu'on est fier de financer ici leur offre toute la gamme de services qu'ils ont besoin. Alors je suis très fière que le Canada soit partenaire de ce projet. Les femmes et les filles sont vraiment au cœur de notre nouvelle politique. D'une part parce que malheureusement elles sont les plus vulnérables face à la violence, face à la pauvreté, mais elles sont aussi, quand on leur en donne les moyens, la capacité, l'éducation, elles peuvent aussi être des acteurs de changement, de développement et de paix.
Alors, est-ce que les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, les premières bénéficiaires des cliniques juridiques et de One Stop Center, sont jusque-là satisfaites de cette prise en charge médicale, psychosociale et juridique? On écoute les impressions des victimes.
J'ai été violée par 5 rebelles dans la brousse un matin. J'ai appris qu'il y avait un hôpital qu'on appelle l'hôpital de Kieshiro, où je suis allée et j'ai été très bien accueillie et soignée. Après les soins, j'ai été présentée à un avocat pour une prise en charge judiciaire, puis on m'a donné de l'argent pour démarrer une activité commerciale et j'ai fait maintenant de la friperie. Mon mari, qui m'avait abandonnée avec les enfants, m'a rejoint après avoir appris mon intégration socio-économique et l'achat d'une parcelle. J'ai fait la couture ici au CCP depuis 3 ans. Nous sommes partis à l'hôpital de Kieshiro où nous avions bénéficié des soins gratuits des avocats pro-déo. Notre bourreau a été arrêté et condamné à la prison de Munzenze. On nous a ouvert des ateliers pour coudre des habits et l'habit que je porte moi-même, je l'ai cousu. D'autres fabriquent de l'huile, du savon. Je remercie le gouvernement canadien pour ce geste. Nous avions été violées, certaines parmi nous, au même moment, d'autres les unes après les autres. Les bonnes volontés sont venues à notre secours et le programme nous a donné de l'argent pour notre réinsertion socio-économique. Certaines font la couture, d'autres le petit commerce.
Ainsi s'achève ce magazine qui s'est penché sur le fonctionnement des cliniques juridiques et l'apport du One Stop Center dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Nord Kivu et nous étions à Goma. Nous avons passé en revue la prise en charge multiforme, notamment médicale, psychosociale et juridique, allouée aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Ce magazine a été présenté par votre serviteur Jeff Ngoyi avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Agréable condition d'écoute de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.